Vous écoutez RTL.
Et RTL.fr.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Comment savoir si j'ai été victime d'une attaque informatique? D'où vient le danger pour une entreprise? Les États pratiquent-ils la cyberguerre? On a plein de questions de sécurité à poser à notre invité Philippe Trouchot. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet PwC. Vous conseillez des entreprises du CAC 40 ou des groupes internationaux pour leur sécurité informatique. On parlait des smartphones, donc vous nous avez dit que c'était très facile de les pirater. Idem pour nos mails. Par exemple, entrer dans une boîte mail, trouver le contenu des mails, c'est pas compliqué ?
Alors, c'est pas toujours très compliqué. Si par exemple, c'est un grand classique, si le mot de passe d'accès à votre boîte mail, c'est par exemple votre prénom, ce qui arrive là aussi très souvent, c'est assez facile de la pirater. Il n'y a pas besoin d'être un génie de l'informatique. Alors évidemment, on peut après utiliser des mécanismes un peu plus sophistiqués, mais finalement, on le voit bien, une partie des incidents de sécurité qui arrivent, ils sont essentiellement liés à un défaut de comportement. On se protège pas très bien et donc forcément, je prenais un parallèle tout à l'heure, c'est exactement le même mécanisme. Si vous fermez pas la porte de votre appartement, bah vous pourrez un peu plus de risques que si elle est correctement fermée.
Ouais. Alors moi ça va, le code de ma boîte mail il est assez sécurisé. Il y a des chiffres, il y a plein de trucs. Je dis pas tout, mais bon voilà, c'est assez complexe.
Des émoticônes,
quand même. C'est un moyen classique d'entrée pour un hacker, par exemple dans une entreprise, les mails.
Voilà, la difficulté, c'est exactement ça que peuvent utiliser des hackers, hein, mais la difficulté pour les entreprises, c'est que là où on a parlé d'une boîte mail et de votre smartphone, quand on parle de l'infrastructure d'une entreprise, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de serveurs, probablement autant d'équipements réseau. Tout ça, ça a beaucoup de mots de passe et il faut les gérer. C'est humainement assez complexe. Donc souvent, on a tendance à justement utiliser des mots de passe qu'on appelle par défaut. Donc un compte d'administration, le mot de passe, c'est administrateur ou admin et ça, les hackers le savent. Bon, après, ils ont des mécanismes un peu plus sophistiqués.
Avant de parler des entreprises, on va donner peut-être quelques conseils aux auditeurs d'RTL et puis à nous-mêmes, évidemment, pour protéger nos données personnelles. Donc les mots de passe, c'est important, vous nous l'aviez dit, il faut en changer souvent.
C'est bien d'en changer souvent, ouais, parce que le caractéristique d'un mot de passe qu'on ne change pas, c'est que souvent il devient un peu confidentiel. Parce que les mots de passe, on a tendance à les noter aussi pour pas les oublier, parce que vous savez tous qu'on en a beaucoup en fait des mots de passe. On en a généralement pas qu'un, on en a beaucoup. Alors on a chacun nos petites astuces, il y en a qui est dans un carnet, sur des post-it. Hein,
Et utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes, plusieurs sites.
S'il est très complexe et donc pas facilement devinable, ça peut être une bonne solution. Mais si c'est un prénom ou quelque chose comme ça, c'est très répandu, hein, les prénoms comme mot de passe.
Et les sites qui veulent garder en mémoire nos mots de passe, on trouve ça sympathique, on fait ah bah oui, bah
ouais, c'est un
pas.
Sacré confort. Quoi. Sauf si le site est bien sécurisé, c'est très bien. Par contre, il y a le même mécanisme d'ailleurs avec les sites qui conservent les numéros de carte bleue. Il n'y a pas de sécurité absolue, donc on peut faire l'hypothèse qu'un jour, malheureusement, ce site sera piraté, donc on découvrira tous vos mots de passe. Mais il y a d'autres moyens, vous pouvez avoir des box cryptées, c'est-à-dire des choses très difficilement atteignables. Ça vous permet, dans un environnement qui est très sécurisé. Le cryptage, ça va vous permettre de brouiller. C'est une vieille technologie qui est connue. Et grosso modo, si vous utilisez un bon cryptage, il faut à peu près 200 ans, c'est la norme, pour décrypter. Donc,
Et nous, on peut utiliser ça, une boîte de cryptage?
Oui, c'est des solutions que vous pouvez utiliser qui sont accessibles au grand public comme aux entreprises. Donc vous voyez, il y a des mécanismes en fait assez simples pour se protéger.
Des solutions que vous proposez, Philippe Trouchot, dans ce livre, La cybersécurité au-delà de la technologie, publié chez Odile Jacob. Dans ce livre, il y a la question des données personnelles. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant. Et c'est important d'en parler ce soir dans la curiosité sur RTL. C'est devenu quoi les données personnelles dans l'économie d'aujourd'hui ?
C'est une valeur, on les qualifie souvent de nouvel Eldorado, de nouvelle mine d'or. Ça a une valeur exceptionnelle pour tous les gens qui font du marketing parce que ça permet, c'est un vieux rêve de publicitaire. Finalement, les données personnelles, ça va vous permettre, au lieu d'avoir une publicité grand public, en fonction de vos goûts, de ce que vous appréciez, ce que vous voulez acheter, ça va vous permettre de cibler la publicité. Et puis, bon, il y a d'autres données personnelles comme les données de santé. Donc, c'est une mine d'or parce qu'on peut en faire beaucoup de choses très positives d'ailleurs. C'est peut-être qui un jour nous sauvera la vie s'il y a des données qui permettent de déceler que je vais peut-être avoir un risque cardiaque ou si on me retrouve dans la rue évanoui, on pourra accéder à mon dossier médical. Donc ça, les données personnelles, faut pas les voir comme un danger potentiel, c'est après plutôt l'usage qu'on en fait qui peut potentiellement amener à des choses qu'on n'a pas envie de voir. Mais c'est une mine d'or, c'est les nouvelles mines d'or. Il y a aussi les données des entreprises et puis on a beaucoup plus de capacités qu'avant de les stocker, de les mettre en valeur grâce à des algorithmes très compliqués. Donc la science a considérablement évolué, mais c'est pas un mal en soi, c'est la façon dont on les conserve. Et puis pour être précis. Finalement, vous l'avez dit aussi, Denis, au travers de votre smartphone tout à l'heure, on a de plus en plus de données finalement très intimes. Hein, c'est donc il y a une histoire malheureusement ou tristement célèbre. Il y a un site de dating aux États-Unis, donc de rencontre, qui a été piraté. Et c'était donc Ashley Madison, pour ne pas le citer. Mm-hmm. Donc c'était des données finalement très intimes. Hein, ça vous voulait dire que vous étiez plutôt infidèle si vous étiez sur ce site.
Ouais.
Les données ont été piratées et la conséquence de ça, ça a été quand même beaucoup de divorces et même des suicides. Il y a quand même, voilà, donc c'est les données personnelles qui relèvent de l'intime. Ça veut dire ça quand elles sont pas protégées. Ça, c'est le scénario catastrophe. Ça a tout un tas de vertus que d'avoir des données personnelles, de les valoriser. Mais il y a aussi le mauvais côté des choses, c'est que voilà, vous exposez votre intimité potentiellement au grand public ou à des gens qui sont malveillants.
Vous parliez de la santé. Google, qui est devenue la première entreprise mondiale en termes de capitalisation, qui est passée devant Apple. Alors, Google a fait une grande partie de sa richesse grâce à nos données personnelles et investit massivement dans la santé, dans les biotechnologies, dans la médecine. La question quand même, c'est qu'est-ce qu'ils feront de nos données médicales? Si aujourd'hui, quand on est sur une boîte mail qui dépend de Google, si on raconte sa vie sur ses mails, on va avoir des publicités qui sont liées à ce qu'on vient de raconter dans nos mails. Donc on peut imaginer que Google va vendre nos données médicales, je sais pas, à des assurances, à des banquiers.
En France, je pense qu'ils peuvent penser à ça, non? Oui, non, ils pensent à ça, mais la donnée médicale pour Google et d'autres d'ailleurs, c'est quand même être aussi capable d'avoir par exemple un petit bracelet qui surveillera vos constantes et d'être capable de prévenir si vous risquez un accident. Donc ça, c'est le côté extrêmement
positif.
Ça va quand même éviter tout un tas d'accidents. Et encore une fois, si vous avez un accident sur la voie publique, le fait d'accéder directement à votre dossier médical, ça pourra vous permettre de savoir que vous. Bon, voilà, ça, c'est le côté très positif. Effectivement, on l'a vu aux États-Unis, il peut y avoir un côté très négatif. C'est par exemple des assureurs qui surveillent les réseaux sociaux et qui peuvent s'apercevoir au travers des photos que vous postez que si vous avez déclaré un arrêt maladie, en fait, en réalité, au travers de ce que vous avez posté sur Facebook, c'est pas vrai parce que vous êtes à la plage.
Voilà, vous êtes en train de faire la fête.
Alors
avec
ça,
des potes sur la plage.
C'est la limite. Voilà, on récupère à la plage. Alors heureusement, il faut quand même rassurer vos auditeurs, il y a des lois en France, on n'a pas le droit de faire ça en France. Et ma prédiction, c'est que c'est pas prêt d'arriver parce qu'on protège quand même considérablement le consommateur. Mais voilà, on voit bien qu'il y a un usage très positif de ces données personnelles, ça peut vous sauver la vie comme il peut y en avoir un très négatif.
Enfin, vous racontez dans votre livre, Philippe Trouchot, la cybersécurité au-delà de la technologie, chez Odile Jacob, que des dossiers médicaux des hôpitaux ont déjà été piratés. Ou en France ?
En France, je ne saurais pas le dire, il y a eu des cas révélés par la presse aux États-Unis encore, où là, c'est vraiment le côté très très noir. C'est des gens qui se sont amusés à pirater ça et qui faisaient du chantage pour ne pas dévoiler des pathologies qui pouvaient conduire un employeur qui a le licencié ou faire des chantages. Donc ça, c'est le volet absolument atroce qu'on n'a surtout pas envie de voir arriver. Mais malheureusement, sur Internet, on parlait tout à l'heure avec votre précédent intervenant de communauté. Internet, c'est une communauté d'à peu près 3 milliards de personnes. Alors forcément, ils ont tous des intérêts un peu antagonistes. Ouais. Il y a une parfaite translation de la délinquance.
Pas que des gentils.
Et il n'y a pas que des gentils. Voilà, il y a une parfaite translation de la délinquance physique dans le monde cyber. Et voilà, il y a des gens malfaisants, mais il y a malheureusement rien de neuf sous le soleil. On réplique les mauvais comportements qu'on avait auparavant. On les réplique assez parfaitement là-dessus.
Et alors, dans la famille des pirates, il y a différentes catégories. On va, grâce à vous, comprendre quelles sont ces catégories de hackers. Restez avec nous sur RTL dans la curiosité.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité de découvrir un monde qui est par définition caché et secret, celui de la cybersécurité. C'est Philippe Trouchot qui nous sert de guide dans cet univers. Les attaques informatiques, Philippe, font parfois la une de l'actualité, comme au mois de novembre 2014.
Vous vous souvenez de WikiLeaks, cette montagne de messages des diplomates américains dévoilés à la planète entière pendant des mois ? Eh bien, voici WikiLeaks à Hollywood. Autant vous dire que le film commence à peine. Si vous aimez le sang, les mensonges et les trahisons, vous allez adorer, car les pirates informatiques ont réussi à accéder aux boîtes e-mail, y compris des grands chefs des studios Sony. Donc, on entre dans la cuisine d'Hollywood, là où on n'aurait jamais dû mettre les pieds.
Vous venez d'entendre Rémi Sulmont, qui à l'époque était correspondant RTL à New York. Alors, Sony, victime d'une attaque informatique de grande ampleur, qui était derrière cette action ? C'était la Corée du Nord, c'est ça, tout un État ?
Ouais, alors c'est la légende, enfin je sais pas si c'est une légende, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que les autorités américaines ont en partie confirmé. On sait aussi que la Corée du Nord, si c'est elle, a plutôt utilisé les services externes de hackers, hein, ils n'ont pas forcément eu la capacité à le faire. Moi, ce qu'il y a de notable dans l'exemple de Sony, c'est qu'en fait, ils se sont aperçus de rien. Quoi. Il a fallu que ces données... Et très souvent, les entreprises n'ont pas les moyens de déceler ces incidents.
Donc, c'est-à-dire qu'ils s'en sont rendus compte, pardon, je vous interromps.
Ouais, quand les données étaient publiées...
Quand c'est sorti, voilà, quoi, dans la presse, c'est ça.
Voilà, on a extrait toutes leurs données de leur système d'information et ils se sont aperçus de rien et ça arrive. Je vais essayer de vous donner quelques chiffres comme ça. Dans notre grande enquête mondiale sur la cybersécurité que fait PwC, il y a seulement 30% à peu près des entreprises qui sont capables de déceler ce genre d'incident. Donc, ce qui fait dire que c'est un marché encore peu mature, on est encore assez peu équipé pour lutter contre ce type d'incident.
On n'est pas équipé ou ça coûte cher?
Ouais. Alors, c'est un peu les deux. On n'est pas équipé. Mais il ne faut pas que de la technologie. Hein, et souvent, c'est parce qu'on n'a pas les compétences humaines pour. On peut acheter de la technologie, mais souvent, on n'a simplement pas les compétences humaines pour l'utiliser. Parce que ces technologies de surveillance, elles ne vous diront jamais très simplement il y a un incident à tel endroit. Elles vont vous donner quelques faisceaux d'indices qui vous permettront d'aller rechercher si effectivement il y a quelqu'un de malveillant dans votre système, mais elles ne sont jamais aussi lisibles que voilà un incident sur telle machine.
On se rend compte que c'est trop tard en quelque sorte.
Bah, c'est souvent ça. Donc, des grands enjeux maintenant de la cybersécurité, c'est d'être capable de faire ce type de surveillance en temps réel et de réagir tout de suite. Parce que quand vous réagissez trop tard, voilà, c'est ce qui s'est passé pour Sony.
Mais il suffit d'une seconde, quoi. C'est ça qui est incroyable.
Ouais, c'est exactement ça. Donc, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui s'équipent de dispositifs de contrôle qui ressemblent un peu soit à des cockpits ou à des salles de marché. C'est très temps réel et ça permet de monitorer les réseaux et les systèmes informatiques en temps réel et surtout de réagir tout de suite. Quoi. Parce qu'après, c'est trop tard. Exactement. Quand les données sont dehors... par définition, elles deviennent publiques et c'est trop tard.
Ouais. Parce que dans cette histoire de Sony, si on se souvient bien, il y avait un film qui était qui devait sortir, qui était une parodie du dictateur nord-coréen et c'est pour ça qu'on soupçonne la Corée du Nord d'être à l'origine de ce piratage. Mais est-ce que ça révèle, c'est le pouvoir potentiel des États? Il y a des États qui mènent des actions de guerre informatique, on peut dire ça?
Oui, il y a d'abord, d'ailleurs vous en parlez souvent, il y a une guerre économique. Hein, donc quand on est en guerre économique, c'est-à-dire qu'on essaye de voler de la propriété intellectuelle des clients à son voisin. Il y a des États plus ou moins scrupuleux qui se sont dit finalement pourquoi ne pas utiliser cette capacité d'aller exfiltrer des données pour récupérer du capital intellectuel que parfois on a mis des dizaines d'années à construire.
Donc pour les entreprises, c'est les brevets qu'il faut protéger, c'est ça
les
par
brevets.
Exemple
alors, d'ailleurs pour être très précis, c'est un peu avant d'avoir un brevet ce qu'il faut protéger, c'est l'innovation avant qu'elle devienne publique au travers du brevet. C'est tout ce qui va vous différencier et donc notamment votre innovation, votre recherche qu'il faut protéger. Parce qu'on peut pas tout protéger, donc faut choisir très précisément ce qu'on veut protéger. Pour revenir à votre question, évidemment, il y a les États, ils ont aussi un besoin d'être offensifs éventuellement, hein, de se protéger eux-mêmes. Là, je parle du côté très régalien de l'État. Un pays peut être attaqué. Hein. Il y a eu des cas au Moyen-Orient notamment. Donc évidemment, et ça a été public, hein, la France s'est dotée de ce genre de moyens. Elle en a même fait une priorité de défense nationale pour avoir la capacité à se protéger, mais aussi éventuellement avoir des capacités offensives sur le sujet.
Alors si on passe, Philippe Truchot, du côté des hackers, il y a différentes catégories de hackers. Il y a ceux qui veulent d'abord se faire connaître de leur communauté, les crâneurs en quelque sorte.
Ouais,
les cracks.
À l'origine, les hackers, c'est un mix de Robin des Bois et de gens plutôt bienveillants. Hein. C'est-à-dire ils sont passionnés de sécurité et à l'origine, ils essayaient plutôt d'aider les entreprises en montrant qu'on pouvait pénétrer leur système et en les aidant. Vous prenez l'exemple de Tesla aux États-Unis qui est assez connu. Ils ont tout un tas de technologies. Des hackers ont réussi à pénétrer ces technologies, mais ils sont allés voir Tesla en leur proposant de collaborer avec eux. Voilà. Et le grand sujet des hackers, c'est que finalement
ils ont collaboré
ouais. Et voilà. Et Tesla lance des challenges réguliers. Il y a plein de boîtes qui font ça. Orange le fait aussi. Donc qui essayent de Google un challenge permanent. Donc vous recevez des prix, de l'argent si vous arrivez à améliorer leur sécurité.
À craquer leur sécurité.
Les hackers, c'est plutôt un cycle assez vertueux. Il y a des gens à l'extérieur qui essayent de pénétrer vos systèmes quand ils ont un minimum d'éthique et compagnie. Là où ça devient plus compliqué et beaucoup plus noir finalement, c'est quand des mafias ou des gens réellement malveillants qui ont besoin de voler de l'argent, des données, utilisent les services de hackers finalement.
Donc la mafia, les mafias vivent avec leur temps.
Il y a une parfaite translation des mafias sur Internet. Oui. Donc elles peuvent utiliser ce genre de services. Il y a même des bourses, il y a des tarifs. C'est...
Oui. Mais Philippe Truchot, dans votre livre « La cybersécurité au-delà de la technologie » qui est publié chez Audit Jacob. Et alors là, j'ai découvert ça en lisant. Pour une entreprise, le danger vient le plus souvent de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des salariés malveillants?
Alors, d'abord, les salariés, comme tout le monde, ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent avoir un smartphone, un ordinateur, et puis ils peuvent l'oublier dans un aéroport, et puis quelqu'un de malveillant peut le récupérer. Alors tout ça, c'est pas du tout grave si, par exemple, le dispositif de base, on a crypté l'ordinateur, et auquel cas, c'est absolument pas un problème. Mais il y a encore, là aussi, moins de 50% des ordinateurs qui sont cryptés.
Ou une clé USB avec des données USB, importantes.
Voilà, c'est des tests avec des données très importantes. Ouais. Et puis d'ailleurs, si on va vers ce côté espionnage, parfois, il suffit de faire les poubelles des entreprises pour récupérer des documents très important. Donc, c'est pas que de la sécurité informatique. Voilà. Ça, c'est l'erreur classique que peut faire un employé. Deuxième catégorie d'employés, il y a ceux qui ont compris que les données de l'entreprise avaient une valeur. Donc, ceux-là, ils vont essayer de les prendre et puis de les monnayer à l'extérieur. Donc, exemple, dans la banque, il y a des employés qui ont fait le tour des administrations fiscales européennes en essayant de vendre les comptes de, par exemple, de Français domiciliés en Suisse. Mmh. Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, qui est un phénomène beaucoup plus nouveau, qui est apparu dans l'environnement macroéconomique un peu déprécié 2008-2009, c'est les employés qui sont pas contents de la gouvernance de leur entreprise finalement, donc ils veulent se venger de leur entreprise. Alors cela c'est les pires parce qu'ils n'ont pas une motivation financière, ils veulent simplement faire du mal à leur propre entreprise.
Ils n'ont rien à perdre.
Ils n'ont rien à perdre et puis en plus leur, vous voyez les contrôles qu'on met d'habitude sur les dispositifs financiers là ça marche pas parce que ceux-là ils ont ils veulent pas s'enrichir, ils veulent juste se venger quoi. Voilà,
c'est... Et puis il y a quelqu'un comme Edward Snowden. Ah. Alors on le classe où Edward Snowden parce que on peut considérer qu'il fait avancer la démocratie puisqu'il offre un site WikiLeaks aux lanceurs d'alerte.
Oui, alors Snowden, c'est pas à moi de le classer, mais on voit bien qu'il y a des réflexions philosophiques. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ashley Madison. C'est pas des hackers qui voulaient voler de l'argent. C'est des gens qui luttent contre la moralisation. Voilà, qui sont voilà, c'est des gens qui ont un précepte moral qu'on fait ça.
C'est-à-dire qu'ils disaient l'adultère c'est mal.
L'adultère
donc,
c'est mal et donc il faut arrêter ce genre de site. Voilà, c'était ça leur motivation. Ils n'étaient pas motivés par l'argent ni par les données. Ils voulaient
des hackers moralistes.
Ouais, exactement. Ça existe. Il y a beaucoup de c'est une façon de je la partage. Pas, mais c'est une façon de défendre votre cause que d'essayer d'arrêter ce genre de... Alors Snowden, comment il faut le classer, je sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il a quand même lancé une pierre dans le jardin de comment on partage ces données-là. Alors je vais surtout pas te porter de jugement, mais voilà, et ça a conduit quand même à d'autres comportements de ce type. Les gens qui ont révélé des données aux administrations fiscales, on voit bien qu'ils ont quand même conduit d'une certaine manière pas mal d'États à réviser leur position sur le sujet. Je suis pas leur avocat, je suis pas en train de les défendre, mais voilà, c'est un débat de société sur la confidentialité des données, quelles sont celles qui relèvent d'un secret d'État, celles qui doivent être réellement confidentielles, celles qui doivent être sur la place publique. On voit qu'il y a ces débats au moins dans toutes les démocraties aujourd'hui. Alors, ils ont peut-être au moins permis de lancer ce débat-là.
Alors, quels sont les signes d'une attaque imminente pour une entreprise ou une administration? Comment évaluer sa propre sécurité informatique? Réponse sur RTL dans la curiosité.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité est un vilain défaut. RTL.
On vous dit tout sur la cybersécurité ce soir sur RTL, la sécurité de nos ordinateurs, de nos systèmes informatiques grâce à Philippe Trouchot. Vous travaillez dans un cabinet, un grand cabinet qui s'appelle
PwC, qui est le leader mondial des services intellectuels, puisque vous m'invitez à le dire. Voilà. C'est fait.
Oui, mais ça tombe bien parce que c'était voilà. Sorti de ma tête trop creuse ce soir. Et vous êtes chargé de la cybersécurité, notamment de grands groupes français ou internationaux au sein de ce cabinet. Les grands patrons, tiens, que vous côtoyez, est-ce qu'ils sont suffisamment préparés? Est-ce qu'ils sont formés à ça, finalement?
Alors, les grands patrons, ils ont une caractéristique. Je suis désolé, je vais reparler de nous. Nous, on interview 1300 directeurs généraux partout dans le monde. Et jusqu'à quelques années, leur rêve, il était assez basique. Leur priorité, c'était finalement de manger de leurs concurrents. Donc, ils voulaient tous faire de la croissance externe. Oui. Depuis 3 ans, leur priorité, c'est d'investir dans le digital, donc dans la technologie. L'investissement dans la technologie, pour donner un chiffre, ça pèse 3500 milliards de dollars dans le monde. Donc, voilà, c'est l'idée de la grandeur.
Mais c'est une manière de bouffer le concurrent aussi, d'ailleurs, de prendre de l'espace, non?
Ouais, et puis aussi de contrer tous les nouveaux entrants, tous les Uber et ce genre de choses, parce que ce qui se passe sur les taxis, ça existe dans tous les secteurs d'activité, partout dans le monde. Donc voilà, pour essayer de répondre à votre question, donc tous les grands patrons, finalement, ils ont une priorité, c'est d'investir dans la technologie. Et ils voient bien que le corollaire de la technologie, elle a quelques inconvénients, elle n'est pas toujours très fiable, elle a quelques vulnérabilités, comme votre smartphone et compagnie. Donc, et puis, ils sont sensibles, ils lisent les journaux, ils vont à Davos, et donc on les sensibilise plutôt bien, nous on essaye aussi au travers de notre enquête sur ce risque-là.
Leur grande difficulté... Vous faites quoi quand vous arrivez dans une entreprise, Vous faites un audit de la sécurité informatique, vous leur montrez que c'est facile de pénétrer leur système, par exemple.
Oui, alors ça, c'est évidemment, on le fait. Donc souvent, c'est assez frappant parce que quand vous montez un grand patron, vous pouvez accéder depuis l'extérieur, depuis une borne Wi-Fi, par exemple, à des systèmes financiers, parfois à des robots qui sont dans une usine à l'autre bout du monde ou à son propre email ou à des données stratégiques. Ça permet de situer le sujet.
Ouais. Mais d'un seul coup, il se dit, je vais peut-être investir un peu d'argent dans la sécurité.
Pour répondre à votre question et pour vous reprendre votre mot, investir. Le grand réflexe a toujours été d'investir dans la technologie. Et on a essayé de le dire au travers des précédentes questions. En fait, la cybersécurité, c'est pas qu'une question de technologie, c'est beaucoup aussi une question de comportement de tous les employés. Parce que si quelqu'un parle dans un train, vous pouvez avoir tous les firewalls, tous les antivirus, il peut faire beaucoup de dommages à la confidentialité de vos données au travers d'une simple conversation. Et c'est beaucoup de compétences humaines. Et très souvent, on a eu du mal à reconnaître que la cybersécurité, c'était une affaire de spécialistes qu'on pouvait. Moi, j'ai vu des cas très hétéroclites. On confie ça à quelqu'un qui était un ancien légionnaire. On confie ça à la personne responsable de l'immobilier. J'ai tout vu dans ma carrière. J'ai vu même des patrons du marketing ou des RH. Donc, on a eu du mal à reconnaître que c'était un métier de spécialiste et qu'il fallait reconnaître ce métier-là. Et de ce métier-là, d'ailleurs, fut un temps, il avait un peu trop le temps de l'appétence à dire non, il faut pas le faire. Et ce que j'essaie d'expliquer, vous avez pris le terme d'ailleurs, la sécurité, c'est plutôt être un guide de haut de montagne. C'est apprendre à appréhender le risque et ne pas dire non et au contraire accompagner la transformation digitale. On apprend aux grands patrons et pas seulement à eux, aussi aux employés, à gérer ces risques. Voilà, pour essayer de...
Philippe Truchot, dans votre livre « La cybersécurité au-delà de la technologie » qui est paru chez Odile Jacob, vous nous expliquez que les hackers, les pirates, finalement, ils ont toujours un coup d'avance. Et c'est ça qui est compliqué.
Ouais. Alors, ils ont une caractéristique, les pirates, c'est qu'ils ont une acuité, alors qui n'est pas visuelle, mais pour prendre une image, ils arrivent tout de suite à trouver la petite aiguille dans la botte de foin. Donc, la petite vulnérabilité que vous avez sur vos milliers de serveurs, ils la voient tout de suite parce qu'ils ont un certain nombre d'outils qui leur permettent de faire ça. Et ils ont de l'avance parce qu'ils collaborent très bien entre eux. Donc, dès qu'un hacker trouve une faiblesse, si vous avez en ce moment, un hacker qui trouve une faiblesse, il est basé en Corée, par exemple, et il trouve, pour rester sur ce pays-là ce soir, il trouve une faiblesse, il va immédiatement la diffuser à tous les autres. Donc ils ont cette capacité et...
Ils sont solidaires en fait.
Ils sont très solidaires, ils collaborent très très bien. Ouais. Ils collaborent même avec d'autres compétences, ils peuvent s'adjoindre des compétences de traders, de trésoriers, de gens qui ont des compétences financières. Et ça, la difficulté, je vous disais tout à l'heure qu'une entreprise, elle a des milliers de serveurs, parfois des centaines de milliers même. Et une fois qu'elle a cette vulnérabilité, le hacker, lui, il la connaît, il peut l'utiliser pour entrer dans un système, mais l'entreprise, elle, il lui faut le temps de mettre à jour toute son infrastructure.
Oui, bien sûr. Donc plus l'entreprise ou l'administration est grande et grosse, ouais, plus c'est difficile,
exactement,
en fait.
Exactement.
Ouais, d'accord. Et ces hackers, ils commencent par quoi? Enfin, on va pas donner le mode d'emploi. Ils commencent par essayer de comprendre l'entreprise, de se renseigner sur l'entreprise,
ils font,
c'est ça
ce qu'on appelle un peu d'intelligence sociale. Ils essayent déjà de voir à quoi vous vous exposez. Donc, quelles sont les portes d'entrée ou les fenêtres qui sont restées ouvertes dans votre réseau. Hein, c'est exactement le même mécanisme. Et quand ils veulent faire des fraudes un peu sophistiquées, ils vont jusqu'à imiter les voix des dirigeants, par exemple. Alors ça, c'est pas forcément le hacker qui a cette compétence, mais quand je parlais du fait qu'il collabore, il s'adjoigne des compétences très particulières pour monter des scénarios de fraude. Il y en a des très célèbre. Ouais.
On veut en savoir plus.
Il faut lire le livre. Merci beaucoup, Philippe Truchot. La cybersécurité au-delà de la technologie chez Odile Jacob.
Allez, on se retrouve demain à 20h avec l'histoire de Thierry Leluron, l'occasion de réécouter des extraits de ses meilleures imitations.
Un voyage sur la planète Mercure et puis une découverte de la France du futur. On verra de quoi sera fait notre quotidien dans 35 ans, 2050.
Très bonne soirée à vous. Salut les curieux.